Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Lévin Mbouinga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. À la une de l'actualité, coopération militaire MONUSCO, autorité du Nord Kivu. La mission onusienne va poursuivre cette collaboration. Propos de Jean-Pierre Lacroix cet après-midi à Goma, vous allez l'entendre. Le chef du département des opérations de paix de l'ONU sortait d'une audience avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Alerte aux érosions dans la cité de Bulungu, province du Kwilu. Plusieurs infrastructures de cette cité sont menacées d'écroulement. La mauvaise canalisation des eaux de ruissellement est à la base de cette situation. Notre invité est Thomas Kikuni Muzombo, administrateur du territoire de Pangui dans la province du Maniema. Il s'inquiète de la grève des enseignants qui paralyse le déroulement normal des enseignements dans son entité. Encore une fois, bonsoir. Nous commençons ce journal avec ces propos du chef du département des opérations de paix de l'ONU. La MONUSCO va continuer sa coopération militaire avec les autorités provinciales compte tenu de l'instabilité sécuritaire dans la province. Déclaration faite par Jean-Pierre Lacroix au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de province, le lieutenant-général Peter Chirimwami. Monsieur Lacroix est arrivé ce mercredi à Goma, poursuivant son séjour en RDC. Les deux personnalités ont discuté autour de trois points cruciaux. C'est notamment l'amélioration de la coopération avec les FRDC, les efforts diplomatiques en cours et le cessez-le-feu. Le chef des opérations de maintien de la paix se dit confiant quant à la volonté des autorités provinciales et à la détermination de la MONUSCO pour amener la paix. Il reconnaît cependant quelques défis pour y arriver. On écoute Jean-Pierre Lacroix au micro de Denise Loukesso.
Le gouverneur a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la poursuite de la coopération. Nous avons discuté de la meilleure manière d'organiser l'amélioration de la coopération avec les autorités. Encore une fois, elle est très bonne, mais il y a toujours mieux à faire, en particulier avec les FARDC. Comment faire en sorte qu'il y ait la meilleure synergie possible pour tenir compte aussi de la présence d'autres acteurs comme la SAMI DRC. Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMI DRC avec les moyens de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter aux mécanismes de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu qui s'est traduit par une certaine diminution des violences, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence. Donc, beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO. Les défis sont là, on le sait, mais nous sommes déterminés à avancer.
Notez que M. Lacroix a également rencontré les responsables de SAMI DRC basés à Goma. Poursuite des crimes graves à l'encontre des populations de Rutshuru par les rebelles du M23 et alliés, la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu inquiète. Elle demande l'intervention du président de la République en vue de libérer les zones occupées par les rebelles et ainsi soulager la souffrance de la population. Dans un communiqué de presse du 17 septembre, cette structure affirme que le cessez-le-feu ne fait qu'exposer la population aux crimes commis par les terroristes du M23, RDF, AFC. La société civile Force Vive du Nord Kivu recommande, entre autres, au président de la République de mobiliser tous les efforts sur le plan militaire et diplomatique pour libérer les zones occupées par les rebelles et soulager ainsi la souffrance de la population. Sifa Maguru pour le reportage.
Dans ses communiqués, la coordination de la société civile du Nord Kivu souligne entre autres cas celui des 40 motos appartenant à des cultivateurs qui fréquentent la zone de Kiseguru, motos qui ont été incendiées par le M23 le 14 septembre. Par la suite, ces rebelles ont pris la mesure d'interdire l'accès aux champs aux agriculteurs de Kiseguru qu'ils assimilent au FDLR, rapporte ce communiqué. La société civile ajoute que la population des milieux ruraux ne vit que des activités champêtres. Leur priver l'accès aux champs, c'est les précipiter vers la mort, dit-elle. Cette structure demande aux Nations Unies, à l'Union européenne et l'Union africaine d'infliger des sanctions sévères aux dirigeants rwandais, mais aussi aux populations, de s'élever pour faire pression au gouvernement gouvernement de la RDC afin de libérer les zones sous emprise de l'ennemi, précise ce communiqué signé par John Banyene, son président. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi ces chiffres. Au moins 32 civils tués en une semaine seulement. Cela se passe dans le territoire de Djougou, en Ituri. Les bourreaux de ces victimes sont des miliciens des groupes armés Codeco et Zaïre. Des sources sécuritaires rapportent également d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités. Face à cette insécurité, de nombreux habitants ont été contraints de fuir leur village pour se réfugier dans des zones plus sécurisées. Reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Le dernier massacre a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi où 10 personnes ont été tuées à l'armée blanche par des miliciens de la Codeco. Quelques jours plus tôt, à Jina, au moins 10 autres personnes ont perdu la vie lors d'un affrontement entre les miliciens de Codeco et Zaïre. Selon des sources sécuritaires, d'autres localités comme Zouboula, Abombi, Djougou Centre, Gbala, Pito, Niapala ont également été le théâtre de violences, faisant une dizaine de morts supplémentaires. En plus des pertes humaines, plus de 40 maisons ont été détruites et des pillages ont ciblé des commerces ainsi que des structures médicales où des équipements et de médicaments ont été emportés par des miliciens de Codeco. Jusqu'à présent, la situation est toujours volatile dans ces villages et localités ciblées par des attaques armées et où des mouvements des populations sont également signalés. Bounia, Jean-Claude Deki, Dile, Radio Capi.
La suite de ce journal, alerte aux érosions dans la cité de Boulungou, province du Kwilu. Plusieurs infrastructures, tant publiques que privées, de cette cité sont menacées d'écroulement. La mauvaise canalisation des eaux de ruissellement est à la base de cette situation. Le député national Donatien Bitini Talabaou, qui redoute la disparition de la cité de Boulungou, plaide auprès des autorités pour lutter contre ces érosions. Irène Boma en parle.
Hormis les maisons des particuliers et même celles de certains officiels, plusieurs infrastructures publiques sont menacées de destruction par des têtes d'érosion dans la cité de Boulungou, notamment les routes, certains bureaux, les écoles comme l'Institut Mayele, l'Athénée de Boulungou et autres. Dans un entretien mardi avec Radio Okapi, le président de la société civile du territoire de Boulungou, Frank Kitapindou, a indiqué que ces érosions sont causées par la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Préoccupé par cette situation, le député national Donatien Bitini Talabaou, élu de Boulungou, plaide pour une intervention du gouvernement central.
Les problèmes des têtes d'érosion qui ravagent la cité de Boulungou, si la première ministre et le ministre des Travaux publics et infrastructures ne met pas la main dans la pâte urgemment, cette cité de Boulungou risque de disparaître. Donc nous venons ici demander aux décideurs d'intervenir rapidement.
Rappelons que depuis la semaine dernière, la cité de Boulungou est divisée en deux après la coupure de son artère principale à la suite d'une tête d'érosion occasionnée par des pluies diluviennes abattues sur ces coins de la province du Kwilu. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Suite du naufrage d'une baleinière lundi sur la rivière Kwango, le bilan provisoire est revu à la hausse. Il passe de 4 à 6 morts, selon des sources officielles. Parmi les 6 morts figurent 2 femmes, 2 hommes et 2 enfants, indiquent les mêmes sources. Pour rappel, cette baleinière qui a fait naufrage est partie du village Tembo dans le territoire de Kasongo-Lunda, province du Kwango, à destination de Kinshasa. Cette embarcation, qui transportait plus de 150 passagers, a cogné une partie du pont Kwango et a coulé. Près de 80 rescapés ont aussi été repêchés, précisent nos sources. Bonne nouvelle cette fois pour les populations de la province de Lomami. Elles bénéficient d'un bac dénommé Kanapumbi. Il a été inauguré hier mardi sur la rivière Lubilanchi en territoire de Ngandajika. Cette embarcation relie les villages Kanapumbi dans la chefferie de Benakalambay et de Benakankolongo dans la chefferie de Bakwa Mulumba. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province de Lomami en présence de plusieurs invités, dont le chef de la maison civile du chef de l'État. Ce bac permet l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Explication Esther Ndalafina.
C'est la première fois que la rivière Lubilanchi dans le territoire de Ngandajika accueille un bac d'une capacité de 20 tonnes. D'après le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala, les travaux de ce bac ont été exécutés par l'Office des routes sur financement du gouvernement central à travers le FONER, et cela grâce au plaidoyer mené par le responsable de la maison civile du chef de l'État et député national, Dr Bruno Mitéo. Il a en outre indiqué que les premiers essais étaient concluants pour la traversée des personnes ainsi que des engins roulants. Les habitants de ces deux groupements saluent la présence de cet engin. Ils affirment avoir perdu leurs proches plusieurs années dans des noyades lors de la traversée par pirogue.
Je suis content pour ces bacs, pour partir à Kalambay. On paye beaucoup d'argent sur les pirogues. Cet ouvrage est très bien. Il nous permet de traverser bien la rivière avec nos produits de champs sans incident. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont mis ces bacs. Je remercie de tout cœur parce qu'on traverse bien. On a connu beaucoup de décès dans cette rivière.
Le territoire de Ngandajika étant le grenier agricole, le bac permet l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, dont notamment Mbujimayi et Ngandajika. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Plus de 50 tonnes de semences de qualité pour environ un millier de bénéficiaires dans le paysage de Yangami dans la province de la Tchopo, dont du Centre de recherche forestière international, Centre international pour la recherche en agroforesterie, CIFOR ICRAF en sigle, objectif poursuivi, augmenter d'au moins 30% le rendement de la production agricole dans cette partie du pays. Jacques Mokonkole signe ce reportage.
Dans les lots de semences figurent principalement le maïs, le riz et l'arachide. La quantité distribuée varie entre 12,5 et 25 kg pour le maïs, 20 à 40 kg pour le riz et 30 à 60 kg pour l'arachide. Les bénéficiaires, à savoir les associations, les églises et les écoles, se disent satisfaits.
Je suis Pauline, fille d'un agriculteur. En famille, tous nous travaillons la terre pour aider notre père. Pour cette saison agricole B, nous avons déjà apprêté 2 hectares pour semer l'arachide, mais le riz.
Au cours du premier semestre 2024, saison agricole A, 20 agrimultiplicateurs ont reçu 7 tonnes de semences de base provenant de l'INERA. Une partie de la récolte a été rachetée par le projet et distribuée pour cette saison agricole B en cours. Modeste Fénot, expert du CIFOR.
Qui sont en train de recevoir la semence maintenant. Et après la récolte, ces bénéficiaires vont rembourser les quantités dont ils ont reçu. C'est à 0%. Nous ferons appel au CNASM pour le contrôle des qualités.
Près d'une centaine de moniteurs agricoles du paysage de Yangambi ont été recyclés par des CIFOR ICRAF. Ils devront suivre et accompagner tous ces bénéficiaires jusqu'à la récolte. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Justice, 303 détenus de la prison centrale de Makala retrouvent désormais la liberté. Ils ont bénéficié de la libération conditionnelle hier mardi à Kinshasa dans un arrêté signé par le ministre de la Justice. D'après le service de communication de ce ministère, l'opération va se poursuivre demain jeudi. Cette initiative vise à désengorger cette prison surpeuplée qui compte de nombreuses personnes en situation de détention préventive pour des infractions mineures, a indiqué la source. Cette libération fait suite à la première vague de libération conditionnelle et de commutation de peine pour des condamnés qui avait été lancée le samedi 27 juillet 2024. Puisque nous parlons de surpeuplement de prison, voyons ce qui se passe au Sud Kivu. Plusieurs personnes sont irrégulièrement détenues dans les cachots et prisons par manque de moyens ou à cause de la lenteur du traitement des dossiers. C'est le constat fait par la commission mixte d'évaluation de l'activité composée des magistrats civils et militaires. Cela après avoir cartographié les lieux de détention et identifié les détenus avec besoin d'assistance judiciaire gratuite. À la suite de cela, 122 détenus en situation irrégulière ont été libérés de la prison centrale de Bukavu, 45 libérés d'autres lieux de détention de la ville, 44 cachots découverts et monitorés, 22 dossiers d'enfants en conflit avec la loi envoyés devant le juge et plus de 200 condamnés éligibles à la libération conditionnelle. Voilà les résultats du projet Accès à la justice présenté hier mardi 17 septembre à Bukavu. Rachel Kiesembangu nous fait le point.
L'opération de cartographie des lieux des détentions et d'identification de détenus ayant besoin d'assistance gratuite a démarré à Bukavu le 19 août dernier. Le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Faustin Mayani Shindano, revient sur ses résultats et les défis.
Il y a des personnes qui ont été trouvées en situation de détention pour des faits bénins, d'autres qui se trouvaient en situation de détention simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de nos institutions. Voilà pourquoi il y en a qui ont été libérés. 120 personnes de la prison centrale, mais les défis pour ce qui concerne les cachots, dans la plupart des cas, il y a insuffisance des OPJ. mais aussi les quelques policiers qui étaient trouvés dans des lieux de détention et dans des cachots. Ces policiers étaient en situation d'ivresse. Ce qui montre à suffisance que les choses ne marchent pas bien. Et nous, comme ministre sectoriel, nous avons le devoir de redresser la situation et d'améliorer les conditions de détention en province.
C'est ainsi que, dès ce mercredi, un atelier de renforcement de capacités de secrétaire de parquet civil et militaire et du personnel pénitentiaire est organisé à Bukavu. Rappelons que cette activité est organisée par le ministère provincial de la justice du Sud-Kivu, appuyé par le projet Accès à la justice, un projet mis en œuvre par le consortium de ONG internationales Alert, IPIS et Pool Institute, Bukavu. Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, une conférence sur la guerre à Gaza organisée par le think tank New South Institute suscite la polémique à partir de ce mercredi et pour 3 jours, le dialogue abordera la polarisation des discours autour du conflit au Proche-Orient. L'événement se tiendra dans un format hybride à la fois en ligne et en présentiel. En réaction, plusieurs organisations dénoncent un débat aseptisé et une normalisation de la situation à Gaza. Cette initiative intervient alors que l'ONU débat d'une résolution soumise par l'autorité palestinienne réclamant la fin de l'occupation israélienne.
L'invité.
Notre invité est Thomas Kikuni Muzombo, administrateur du territoire de Pangui dans la province du Maniema. Il s'inquiète de la grève des enseignants qui paralyse le déroulement normal des enseignements dans son entité. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur l'administrateur Kikuni Muzombo Thomas, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Monsieur l'administrateur, quelle est la santé de votre territoire?
En tout cas, la santé de mon territoire est dans un état bon dans l'ensemble. Et la sécurité aussi, en général, un peu partout, se calme pour le moment.
En ce qui concerne l'éducation des enfants et côté sanitaire?
En ce qui concerne l'éducation des enfants. L'école devrait commencer le 2 septembre. Dommage. Nous avons l'agence Caritas ici qui donne de difficultés surtout aux enseignants parce qu'il y a de ces enseignants qui n'ont pas encore touché leur salaire du mois de mai, juin, juillet et jusqu'à présent le mois aussi d'août qui vient de s'achever.
Mais monsieur l'administrateur, cette situation c'est presque chaque année. Cela fait presque 4 ans qu'on observe des mouvements de grève tout au début de l'année. Ça handicape les enfants. Vous n'avez pas le temps d'échanger avec les enseignants pour en parler?
Nous avons toujours l'habitude d'échanger avec les enseignants, mais nous nous mettons quand même à leur place. Parce que même si ils ont quand même un salaire là-bas de 100 dollars le mois, il serait mieux qu'ils puissent toucher ça à temps opportun. Mais ils se réalisent même 4 mois sans pour autant que ces enseignants soient payés. Et surtout, ces défauts incombent toujours à la banque Caritas. Au moment où les enseignants de Kindu. Ils sont déjà payés, mais pour l'intérieur ici, il faut toujours attendre et passer des mois et des mois.
Monsieur l'administrateur, comment avez-vous accueilli la décision du gouverneur supprimant certaines barrières jugées gênantes dans votre entité? Et aussi, est-ce que cette mesure est prise en considération ici?
Effectivement, cette mesure est prise en considération et ça a été tellement bien accueilli par la population parce que avec toutes ces barrières, il y avait beaucoup de tracasseries et des rançons qui s'est passé aussi. En tout cas, tout est calme avec quelques barrières qui restent dans les territoires.
Et il semble qu'ici, vous avez un sérieux problème d'eau potable car nous voyons le jeune fille, le maman sillonner ça et là avec le bidon à la recherche d'eau.
Effectivement, pendant ce temps ici, nous avions quand même une petite entreprise ici répondant au nom de Erco qui a toujours l'habitude de fournir de l'eau ici. Mais pendant cette période de la sécheresse, même au niveau du captage, il n'y a pas une grande quantité d'eau. Et c'est la raison pour laquelle il y a la pénurie d'eau potable pour le moment.
Alors, les gouverneurs venaient de passer dans votre territoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces passages?
Avec le passage de son Excellence, Monsieur le gouverneur dans notre territoire, son Excellence nous a apporté d'abord des morgues parce qu'ici, il y avait des difficultés. On a enterrer le même jour les morts. Mais avec la présence de ces deux morgues, ça va quand même permettre à ce que les gens ne puissent pas être enterrés encore comme si c'était des vaches. Et nous avions eu aussi la promesse à ce que nos routes seront entretenues, surtout les routes des dessertes agricoles. Parce qu'il y a aussi la pénurie des aliments de première nécessité parce que les routes sont dans un état de délabrement. Avec cet espoir, nous comptons que vraiment, et même la nourriture va sillonner un peu partout dans des grandes agglomérations de notre territoire.
Mais les habitants du territoire de Pangui ne cultivent pas souvent, ils se lancent beaucoup dans des activités minières.
Ah, une grande partie, et surtout dans de grandes agglomérations, c'est là où il y a assez d'activités minérales. Mais dans l'intérieur là-bas, ce sont des paysans et ils cultivent des champs. Mais l'évacuation qui fait défaut parce que les routes ne sont pas bien entretenues.
Pourquoi alors ne pas encourager la population aux activités agricoles, étant donné que, monsieur l'administrateur, ici, la vie coûte extrêmement cher.
Effectivement, nous avons commencé cette sensibilisation et surtout aussi avec son Excellence, monsieur le gouverneur, il a quand même un organisme appelé Maendeleo. Avec Maendeleo, on fait la pisciculture, la riziculture aussi, et on commence à produire beaucoup de riz au niveau des Kalima. Cette sensibilisation va continuer et nous espérons réellement nous aurons un résultat escompté.
Monsieur Kikuni Muzombotoma, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Voilà, c'est sur cette situation générale du Maniema que nous bouclons ce journal. Merci à Martin Sebujangwe, à Pele Kipela Mondo et à Dieudonné Nyangasa.